VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 17 août 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Arnold Butson. Pour commencer, les titres.
En Guinée, un mort et des blessés après une grande manifestation de l'opposition à Conakry.
Visite du Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo après le dernier massacre des civils à Beni dans l'est de la République démocratique du Congo.
Washington est en train d'évaluer l'étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran après l'utilisation par la Russie d'une base iranienne pour des raids aériens en Syrie.
Et ne manquez pas notre journal des Jeux Olympiques ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Guinée, un jeune homme a été tué et une dizaine d'autres personnes blessées mardi à Conakry après une grande manifestation de partisans de l'opposition, a appris de sources concordantes l'AFP. Le rassemblement de 700 000 personnes, selon le chef de l'opposition Saloud Alain Diallo, de moins de 500 000 personnes, selon les forces de l'ordre, s'était déroulé sans incident notable. Mais c'est sur le chemin du retour que les violences ont éclaté, selon les mêmes sources. Jean-Roger Bion fait le point.
La victime, Thierno Amidou Diallo, âgé de 21 ans, a reçu une balle en pleine poitrine tirée par un agent des forces de l'ordre alors qu'il était assis sur le balcon de son appartement à Bambeto, sur l'autoroute Le Prince, en banlieue de Conakry, a affirmé à l'AFP son frère Mamadou Dian Diallo. Le ministre de la Sécurité, Abdoul Kabele Camara, a confirmé dans une déclaration lue dans la soirée à la télévision d'État que des troubles avaient éclaté en fin d'après-midi aux alentours du rond-point de Bambeto, entraînant une intervention de la police au cours de laquelle deux cas de blessures graves par balle, dont un mortel, ont été enregistrés. L'auteur présumé des tirs, un capitaine de police, a été identifié et interpellé. Le chef de l'opposition, qui a présenté ses condoléances à la famille et s'est rendu à la clinique, a demandé aux jeunes de quitter les rues. Après cette mort, M. Diallo a dit que l'opposition va porter plainte contre X. Outre ce décès, le gouvernement a fait état de 12 blessés et 6 interpellations.
Et notre correspondant Zakaria Camara était à la manifestation où il a parlé à certains protestataires.
Mal gouvernance, les gens sont faits.
Ibrahima est vendeur ambulant. Il fait partie des milliers d'opposants au régime d'Alpha Condé à se rassembler devant le stade 28 septembre de Conakry. Aliou est à la recherche du premier emploi.
Il y a la galère, tout le monde souffre. À chaque fois, on ne fait que de nous promettre. Chaque étudiant a une tablette. Maintenant, on ne sait pas où on va. Et pour cela, on est venu ici pour manifester notre râle de bois parce qu'on en a marre.
Amadou, diplômé sans emploi, semble avoir une position moins dure.
6 ans, c'est trop. La solution, il faut que le président accepte vraiment. 2020, c'est le pouvoir qu'il ait. Demandons l'amour de Dieu, respecter vraiment la constitution guinéenne.
C'est le chef de file de l'opposition qui prononce le dernier discours. Saloud Alain Diallo et craigne ce qu'il appelle les promesses non tenues du président Condé. Il a cité, entre autres, l'emploi des jeunes. Conakry, Zakaria Camara, pour La Voix de l'Amérique.
En République démocratique du Congo, 3 jours après le massacre de 51 civils à Beni, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est rendu sur place hier à la tête d'une délégation incluant de hauts responsables de la sécurité. Il a promis de nouvelles stratégies dans la lutte contre les rebelles islamistes ougandais ADF qui commettent des atrocités dans cette région de l'est du Congo. De Goma, capitale du Nord Kivu, Charlie Kasereka fait le point.
Aussitôt arrivé à Beni, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui conduisait une forte délégation du Conseil de défense, composée des généraux de l'armée et ceux de la police, se sont rendus dans les quartiers Rwangoma où 51 civils ont été sauvagement massacrés le week-end dernier. Augustin Matata Ponyo explique que l'objectif de la mission.
Il fallait que l'ensemble du Conseil supérieur de la défense puisse descendre sur le terrain pour pouvoir examiner le fait dans leur détail, pour pouvoir fournir les éléments à son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de lui permettre aussi de finaliser et de fiabiliser sa stratégie de riposte.
Sur place, les quelques habitants qui sont restés dans les quartiers sont venus l'écouter, certains, avec beaucoup de murmures, la colère ainsi que beaucoup de questionnements en tête.
à la communauté internationale de travailler conjointement pour mettre fin au massacre.
C'est dans la soirée, c'est mardi, que le Premier ministre est revenu à Goma, où le président Joseph Kabila séjourne depuis plus de 4 jours. Un conseil de défense sera organisé à Goma, où des grandes décisions et des nouvelles stratégies seront annoncées dans les prochaines heures. Rappelons déjà que sur le terrain à Beni, l'armée a procédé au changement de la couleur de leur tenue pour éviter la confusion que la rébellion d'islamistes et des ADF ait créée dans la population en portant la même tenue que les militaires loyalistes. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Et toujours en RDC, 3 membres de l'organisation catholique Caritas Congo ont été enlevés mardi dans une zone de l'est du pays où des rebelles Hutus des Forces démocratiques de libération du Rwanda sont actifs. C'est ce qu'a annoncé Guy Marin Kamanji, un porte-parole de l'organisation humanitaire.
Au Mali, toujours pas de compromis entre la CMEA et la plateforme. Suite aux récentes tensions à Kidal, réunis à Bamako depuis vendredi dernier, les responsables des deux mouvements n'ont pas pu harmoniser leur position pour un cessez-le-feu entre le Gatia et le HCUA. Les deux groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation se sont violemment affrontés ces dernières semaines à Kidal suite à des divergences sur la gestion administrative et militaire de la ville, nous dit notre correspondant sur place Kassim Traoré.
Le haut représentant du chef de l'État malien pour la mise en œuvre de l'accord, le contrôleur général Mamadou Diawara et le patron de l'aménagement Anadif ont reçu les groupes armés séparément. Tous les responsables de la CMA, une forte délégation avec des responsables politiques et militaires. Puis les Gatcha qui étaient très en colère parce qu'ils ont été mis hors de la ville de Kidal. Les Gatcha posent comme préalable le retour de ses troupes dans la ville de Kidal. Cela pourra, selon la délégation des Gatcha, faciliter le retour au calme. Ils exigent aussi une gestion paritaire de la ville avec la CMA. Cette proposition des Gatcha est rejetée en bloc par la CMA, qui veut gérer Kidal en maître absolu. À défaut de sa première proposition, les Gatcha a demandé de revenir à la situation d'avant les événements des 20 et 21 juillet 2016, où il était dans la ville avec la CMA, avant d'y être chassé par l'aménagement et Barkhane, suite au combat meurtrier. En plus de son retour à Kidal, les Gatcha veulent aussi avoir le même nombre de combattants dans la ville que la CMA, une proposition qui a rendu les négociations encore plus difficiles. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'utilisation par la Russie d'une base iranienne pour des raids aériens en Syrie est malheureuse, mais pas surprenante, a réagi le département d'État américain hier. Les précisions de Nani Talani.
Washington est en train d'évaluer l'étendue de la coopération entre Moscou et Téhéran, a déclaré Mark Toner, porte-parole du département d'État. Selon lui, le recours de Moscou aux bases iraniennes n'empêchera pas nécessairement les États-Unis de parvenir à un accord avec la Russie pour combattre le groupe État islamique en Syrie. « Nous n'en sommes pas encore là », a tenu à souligner Mark Toner, expliquant que l'aviation russe continue de bombarder les groupes syriens modérés soutenus par les États-Unis. Pour sa part, la coalition internationale contre le groupe État islamique traque entre 100 et 200 djihadistes ayant utilisé des boucliers humains pour fuir la ville syrienne de Minbej, dont ils ont été chassés le 6 août, a fait savoir mardi le colonel américain Chris Garver, porte-parole de la coalition basée à Bagdad. Afin d'éviter toute perte civile ou dommage collatéral, les forces partenaires sur le terrain n'ont pas engagé le combat avec le convoi, a précisé le colonel Garver.
La coalition arabe sous commandement saoudien engagée au Yémen a lancé hier une enquête indépendante après la vive indignation suscitée par un raid aérien meurtrier contre un hôpital qui a fait 14 morts selon Médecins sans frontières. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
«
À présent, le journal des Jeux Olympiques sur VOA Afrique avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Deux nouvelles médailles pour l'Afrique hier soir.
La Kenyane Faith Kipyegon a remporté le 1500 mètres de ces Jeux Olympiques, le temps 4 minutes 8 secondes 92 centièmes, devançant la favorite éthiopienne Genzebe Dibaba et l'américaine Jennifer Simpson. Dibaba, détentrice du record du monde, a pris l'initiative à 700 mètres de l'arrivée, mais a été débordée par Kipyegon dans le dernier virage. La Kenyane, championne olympique de 22 ans, a ainsi pris sa revanche sur les mondiaux de 2015 à Pékin, où Dibaba l'avait devancée pour la médaille d'or.
Les autres résultats de ce mardi pour l'Afrique?
Bilan mitigé pour la Côte d'Ivoire, puisque seule une sprinteuse sera en finale du 200 mètres. Marie-Josée Talou sera bien en finale ce mercredi, mais Muriel Aouré a échoué en demi-finale. Meilleur temps des séries du 5000 mètres pour l'éthiopienne Almaz Ayana, déjà championne olympique du 10 000 mètres. En revanche, déception pour la Congolaise Béatrice Alice Kamuchanga sur la même distance. Elle a terminé 17e et dernière de sa série en 19 minutes 24 secondes. Elle n'a même pas réussi à égaler son propre record. Elle est éliminée dès les séries. Deuxième temps des séries du 1500 mètres pour le Kenyan Ronaldo Kemoi en 3 minutes 38 secondes et 33 centièmes. Et puis déception et fin de parcours pour les Angolaises battues 27-31 par la Russie en quart de finale du tournoi de handball. En boxe, dans la catégorie des plus de 91 kilos, on espérait une médaille avec effet Ajagba qui combattait pour une place en demi-finale. Mais le Nigérian s'est finalement incliné en quart après un combat difficile contre le Kazakh Ivan Dijko. Et puis en natation, 10 km en eau libre, le Tunisien Oussama Melouli, champion olympique de l'épreuve en 2012, ne termine qu'à la 8e place.
Sur 200 mètres, Bolt toujours numéro 1.
Oui, le septuple champion olympique Usain Bolt s'est facilement qualifié pour les demi-finales, ainsi que l'américain Justin Gatlin. L'américain Lashon Merritt, médaillé de bronze sur 400 mètres dimanche, s'est lui aussi qualifié pour les demi en remportant sa série.
En triple saut,
l'américain Christian Taylor a conservé son titre olympique du triple saut en franchissant 17,86 m au premier essai. Il devance, comme à Londres, son compatriote Will Clay et le chinois Dong Bing. A noter que le malien Mamadou Chirif Dia arrive très loin derrière à 16,46 m. Hugues Fabrice Zango, le burkinabé, à 15,99 m.
Puisqu'on parle d'athlétisme, le Mali avait une athlète qui courait le 400 mètres cette semaine.
Et malgré son élimination dès les séries, Djenebou Dante se dit très satisfaite de sa participation aux Jeux Olympiques 2016.
Bon, ma participation aux Jeux Olympiques, je suis très contente et très fière. C'était mon objectif cette année de participer aux Jeux Olympiques et je suis venue, je suis très contente. Je suis très contente de courir aux Jeux Olympiques. C'est une première expérience pour moi et j'ai pas pu quand même atteindre mon objectif qui était de battre mon record, mais je suis très contente. Et ça va me servir d'expérience pour le prochain jeu et pour le championnat du monde l'année prochaine. Ça va me servir de beaucoup d'expérience pour Tokyo et à Tokyo, je sais que ça va marcher.
Djenebou Dante, coureuse du 400 mètres au micro d'Alvaro Andrade, l'envoyé spécial de VOA à Rio.
Retour à présent sur le triomphe de la gymnastique américaine et sa star Simone Biles.
Oui, la jeune américaine Idrissa de 19 ans remporte sa 4e médaille d'or de ces Jeux Olympiques au sol. Le point avec Jean-Roger Billon.
A noter qu'Ali Reisman, déjà sa dauphine au concours général, se classe 2e de ce concours au sol. Ce duel opposait les deux américaines entre la triple championne du monde en titre d'un côté et la tenante olympique de l'autre. Pour ses premiers Jeux, la jeune Texane de 19 ans a déjà remporté à Rio le concours par équipe, le concours général, le saut et obtenu une médaille de bronze à la poutre. Avec ses 4 titres, Simone Biles égale le record de 4 titres sur les mêmes JO co-détenus par la soviétique Larissa Latinina et la hongroise Agnès Keleti en 1956 quand il y avait 7 compétitions contre 6 aujourd'hui, ainsi que la tchécoslovaque Vera Kaslavaska et la roumaine Ekaterina Szabo. À noter l'échec de la Chine qui répare des JO sans aucune médaille d'or en gymnastique artistique masculine et féminine, une première depuis 1984.
Et ce mercredi,
La demi-finale des Nigérians en football contre l'Allemagne dans le tournoi masculin. Les footballeurs nigérians disputeront les demi-finales des Jeux Olympiques pour la troisième fois après la médaille d'or de 1996 et la médaille d'argent de 2008. Avec 19 buts inscrits en 4 matchs, la sélection allemande est la meilleure attaque de ces JO. Avec le meilleur buteur du tournoi, il s'appelle Serge Gnabry. Il est attaquant, il est d'origine ivoirienne, il joue pour le club d'Arsenal. Il a déjà marqué 6 buts depuis le début du tournoi. À suivre ce mercredi également en javelot, Julius Yego, le champion du monde kényan de la discipline, entre en compétition. Il tentera de se qualifier pour la finale qui aura lieu samedi. Et on rappelle Idrissa qu'au classement des médailles, les États-Unis sont toujours premiers, comme quasiment depuis le début de ces Jeux, devant la Grande-Bretagne et la Chine.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Boeing a proposé au gouvernement camerounais un plan de relance de la Cameroon Airlines Corporation de 327 milliards de francs CFA. Le nombre d'aéronefs devrait passer de 5 à 14 sur une période de 5 ans. L'État avait l'obligation de débloquer une aide de 57 milliards de francs CFA, de payer la dette de Camerco de plus de 35 milliards et d'investir 10 milliards dans des travaux de construction. Les importations de la Côte d'Ivoire en provenance du Japon ont progressé de 34% en un an, selon l'Organisation du commerce extérieur du Japon. Elles sont passées de 96 105 à 129 196 milliards de francs CFA entre 2014 et 2015. La plupart des produits importés sont des véhicules. En revanche, les exportations, principalement de cacao, ont chuté, passant de 4 062 à 3 407 milliards de francs CFA. Croissance du taux de pénétration d'Internet au Gabon. Pour le premier trimestre 2016, il a progressé de 2,11%, se situant à 72,56% contre 70,45% pour la même période en 2015. Le parc d'utilisateurs a augmenté de 32 000 en 3 mois pour se situer à plus de 1 100 000 utilisateurs. Toutefois, l'accessibilité du réseau Internet dans l'arrière-pays pose encore problème.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Augustin Matata Ponyo, en visite à Beni hier, mardi, le premier ministre de la RDC s'est rendu dans cette ville du Nord Kivu où une cinquantaine de personnes ont encore été massacrées dans la nuit de samedi à dimanche. Les attaques perdurent dans le territoire de Beni et les habitants sont en colère face à l'impuissance des autorités pour les arrêter. Nicolas Pino a joint Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
L'ambiance est toujours morose parce que les deuils continuent. Vous savez, le gouvernement avait décrété 3 jours de deuil. La délégation est arrivée et elle a visité les lieux où on a tué. Elle est maintenant au niveau de la mairie pour discuter un peu avec le comité urbain de sécurité. Mais le problème va au-delà de cette visite. Le président Kabila a été ici 3 jours avant les tueries. Je pense que pour la population, sa présence n'est pas nécessaire. Au moment où il a envoyé la délégation qui pourrait trouver des solutions au problème, le président est à Goma. Goma, c'est la capitale du Nord Kivu. Pour la population, ce qui compte, c'est qu'on mette fin au massacre. Le président avait promis et on attend des moyens.
Justement, quel est l'état des moyens des forces de sécurité sur place à Beni?
L'état des moyens, c'est faible. Parce que d'abord, les opérations durent 2 ans. Il n'y a jamais eu d'évaluation de troupes. Et on ne sait pas, il y a eu combien de morts, combien de blessés. Il faut faire une évaluation. Ça, c'est de 1. Et il faut faire la relève des troupes. Il faut équiper la police urbaine et la police militaire. Pour intervenir, vous savez, la ville elle-même, la police n'est pas équipée, la police n'a même pas un véhicule pour faire la patrouille, la police militaire, même chose. Donc il faut d'abord qu'on pense à doter la police urbaine et la police militaire des véhicules pour intervenir au moment où la population a besoin de ces services. Il y a des bataillons qui n'ont plus l'effectif voulu, donc il faut vraiment faire tout un toilettage pour comprendre il y a combien de militaires au front et en ajouter d'autres en cas de besoin.
Concernant l'identité des assaillants, les ADF Nalu, hein, ces rebelles ougandais, sont souvent pointés du doigt. Est-ce que vous croyez à cette thèse ?
Oui, il faut dépasser cette appellation de rebelles ougandais. C'est le djihad qui est régional parce que le recrutement s'est fait en Tanzanie, au Kenya, au Sud-Soudan, en Ouganda et en RDC. Et il faut arriver à monter au deuxième palier pour comprendre que le terrorisme qui se passe ici est régional. Ce n'est plus un problème des rebelles ougandais. C'est vraiment régional. Il y a 5 ou 6 ou 8 nationalités qui se retrouvent dans les forêts des Beni.
Nikes Kibel Beloka, directeur du journal Les Coulisses.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
En Afrique du Sud, l'ANC tente de recoller les morceaux après sa défaite sans précédent aux élections du 3 août. Le parti de Nelson Mandela a perdu la majorité dans des centres urbains clés, cédant ainsi du terrain à l'opposition. Pour faire le point, Timothée Drangmaï a joint le professeur André Thomasson de l'Institut du droit international et comparatif de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria.
L'ANC a perdu 8%, il est tombé de 62% à 54% au niveau national. Les 8% qui lui manquent ont été acquis par le parti, on pourrait dire, d'extrême gauche, le parti des Economic Freedom Fighters.
Des combattants de la liberté économique.
Ce n'est pas un virage exactement à la droite. La gauche continue avec 62%, mais l'ANC a été faibli. L'ANC a eu une réunion très fondamentale de son comité central, qui s'appelle maintenant le Conseil national exécutif, NEC. Le parti est sorti avec une déclaration que le parti maintient le principe de la responsabilité collective, que le parti ne va pas attribuer des responsabilités individuelles et que le président Zuma est confirmé dans sa position de président du parti et de président du pays, avec un mandat de prendre les mesures nécessaires pour vaincre les faiblesses du parti, pour s'adresser aux causes de la perte de vote du parti.
Ce désaveu de l'ANC pour le parti de Nelson Mandela doit tout de même inquiéter en Afrique du Sud.
Bien sûr, c'est surtout la nouvelle classe moyenne qui on peut estimer de compter à peu près 8 millions de gens qui ont un emploi fixe et qui payent des impôts mensuellement, qui sont des professionnels, des petits, des moyens professionnels. Pour eux, la perspective que l'Afrique du Sud pourrait se désintégrer, pourrait choisir un avenir semblable à la Nigérie ou même au Zimbabwe, ça c'est très effrayant. Alors ils sentent qu'il faut absolument adresser le manque de discipline au niveau de l'administration municipale et l'administration des provinces et enfin l'administration en général, parce qu'il y a eu trop de corruption et trop de pertes de bons services. Il y a peut-être 2/3 des municipalités qui sont dans un état technique de faillite à cause de la corruption et en fonction de ça, il n'y a plus de livraison fiable de l'eau potable, de l'électricité, de sécurité, de services de santé et même de l'éducation. Alors pour Zuma, de refaire cette discipline dans son administration, c'est une grande tâche. Il lui reste à peine un an, peut-être un an et demi, jusqu'aux prochaines élections générales. Et un peu la guerre va continuer, parce qu'il y aura des gens plus jeunes dans le parti qui trouvent qu'il serait mieux qu'un nouveau candidat soit trouvé plutôt bientôt.
Le professeur André Thomasson de l'Université d'Afrique du Sud à Pretoria. À Brazzaville, un ingénieur biotechnicien, Senge Senge, a mis au point une technique de production des champignons. Désormais, il est facile pour un ménage d'acheter un kit à la congolaise de biotechnologie et de récolter ses champignons à volonté pendant des semaines. Les populations en raffolent, nous dit notre correspondant Nguela Ngusu.
Étagère géante, odeur de sueur de bois, une maison à étage mais en bois, implantée à Mongali en plein cœur de Brazzaville. Bienvenue chez Tsenge Tsenge, le patron de la Congolaise de biotechnologie, l'homme qui produit les champignons pour les compatriotes.
Cette unité est une unité démonstrative pour la production des champignons. Alors on va vous montrer grosso modo comment le processus a lieu de production, quoi disant, de ces kits. Le bois et le sang de blé, ce que vous voyez ici, que nous mélangeons avec les copeaux qui ont été broyés. Comme vous voyez, tous ces sachets sont prêts à aller à la pasteurisation, qui est une opération qui permet d'éliminer l'essentiel. Ça ne tue pas tout, mais ça élimine l'essentiel des microbes. Dès que le kit est prêt comme ça à la fructification, pour les gens qui achètent les kits de production de champignons, ils n'ont qu'environ 8 à 10 jours pour obtenir leurs champignons, les consommer.
Drapé dans une blouse blanche, des yeux intelligents derrière des lunettes de scientifique, Tsenge Tsenge, crâne rasé, a de quoi défendre le gabarit d'un biotechnicien plutôt que celui d'un bon débrouillard.
On peut dire que ma formation d'ingénieur de l'École centrale de Paris, j'ai fait la dernière année dans le domaine des biotechnologies. Voilà.
Mais l'homme est bien connu sur la place de Brazzaville pour avoir construit des bateaux de pêche. Jamais un Congolais n'a réalisé un tel exploit au pays. Une aventure qui s'est malheureusement mal terminée.
Il y a eu beaucoup d'entraves, pour des raisons politiques, et c'est triste, mais elle va être ressuscitée. Elle va ressusciter en Afrique du Sud. Et c'est un peu, si vous voulez, pour moi, ça demeure la chose la plus importante.
Aujourd'hui, Tsenge Tsenge a rebondi sur la production de champignons et des consommateurs ne tarissent pas de témoignages.
C'est bon, ces champignons-là, je les ai achetés une fois ou deux fois déjà. J'ai préparé, il n'y a pas de différence entre les autres champignons.
Mais c'est un goût très bien, c'est comme les champignons. Mais c'est très tendre, hein. C'est très doux, c'est pas dur, et il y a un goût vraiment des champignons. Je le prépare avec le poisson fumé, avec le foumbois, je le prépare avec le poisson d'eau douce.
Vous voyez le parfum de la forêt. Vous êtes au village quoi, quand vous mangez ces champignons-là. Et les enfants ont adoré, et les grandes personnes aussi. Et les gens ne croyaient pas quand j'ai emmené mes deux sachets. J'ai dit, mais voilà encore une folie. J'ai dit, non, ça, c'est une folie positive.
Légumes très prisés dans le pays, les champignons pourront être cueillis à volonté et consommés en toute saison. Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Présidentielle américaine 2016, la candidate démocrate à la Maison-Blanche a nommé une équipe de transition pour succéder à Barack Obama. Hillary Clinton a rendu publique hier la composition de cette équipe chargée de préparer la passation de pouvoir avec le président sortant, et il faut le préciser, en cas de victoire en novembre. Jacques Aristide.
Oui, la nomination d'une telle équipe est traditionnelle dans le processus électoral américain afin de préparer la transition durant les semaines précédant la prise de fonction du nouveau président au mois de janvier suivant l'élection. Depuis 2010, l'administration fédérale dispose de fonds pour financer les équipes de chaque candidat dès avant l'élection de novembre, par exemple en mettant à leur disposition des bureaux à Washington. L'équipe de campagne d'Hillary Clinton pourra ainsi rester focalisée sur l'élection d'après son entourage. C'est Ken Salazar, ancien secrétaire à l'intérieur de Barack Obama, qui a été nommé président de cette équipe de transition. Quand Hillary Clinton entrera dans l'histoire comme première femme présidente du pays, dit-il, nous voulons avoir une organisation clé en main pour qu'elle puisse être opérationnelle dès le premier jour. La forme juridique de cette structure est une association à but non lucratif. Parmi les autres responsables figurent Tom Donilon, ancien conseiller à la sécurité nationale de Barack Obama, et Neera Tanden, une proche d'Hillary Clinton qui dirige le centre de réflexion Center for American Progress, considéré comme la boîte à idées des démocrates. De son côté, Donald Trump a nommé en mai dernier le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, comme président de son équipe de transition.
Et justement, Jacques, en parlant du candidat républicain, des centaines d'ultranationalistes serbes qui protestaient contre la visite du vice-président américain Joe Biden hier à Belgrade ont scandé leur soutien à Donald Trump.
Oui, Donald Trump qui a pourtant été présenté par Joe Biden comme celui qui pourrait incarner le retour de l'anti-américain panaméricanisme à l'étranger. Mais dans les rues de la capitale serbe, ce n'est pas ça qu'on entendait hier. Votez pour Trump, votez pour Trump. Voilà ce que ces manifestants chantaient à tue-tête. Rassemblés près du bâtiment de la présidence serbe, ils portaient des t-shirts arborant une image du candidat républicain américain. Toutefois, le vice-président Biden se trouvait à ce moment-là dans une autre partie de Belgrade, laquelle était interdite aux manifestants. Joe Biden y effectuait une visite d'un jour avant de se rendre au Kosovo. Interrogé par Reuters, le chef ultranationaliste du Parti radical serbe a déclaré que Trump était l'alternative à la mondialisation. Il détruira le vieux centre du pouvoir aux États-Unis et il est un partisan de la Russie, ajoute Vojislav Sejels, dont l'acquittement en mars dernier pour crime contre l'humanité et crime de guerre par le tribunal de la Haye fait encore couler beaucoup d'encre.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir écouté. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.